Les élèves ne pourront pas retrouver le lycée Saint-Jean 23 de Païta la semaine prochaine. Après l'incendie criminel survenu hier soir, seuls les BTS pourront poursuivre leurs cours. On connaît le casting du 19e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'élection des membres du nouvel exécutif doit avoir lieu vendredi prochain. Une Miss RRB devient Miss Nouvelle-Calédonie. Lana Prost a été désignée ambassadrice de beauté du Caillou et représentera le territoire lors du concours Miss France en décembre prochain. Un beau bilan pour le Salon des collectionneurs édition 2026. Le rendez-vous se déroulait durant 3 jours à la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. L'actualité en métropole avec d'importants incendies qui sévissent toujours, notamment en Gironde, où les flammes poursuivent leur progression après avoir consumé 32 000 hectares de forêt. À la une du sport, place au grand final pour le Tour de France. La grande boucle se termine la nuit prochaine dans les rues de Paris. Et l'actualité sportive sur le territoire, plus de 130 judokas étaient réunis à l'occasion du tournoi du club calédonien tout le week-end à Nouméa. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de votre journal, les équipes pédagogiques du lycée Saint-Jean 23 de Païta qui doivent s'organiser dans l'urgence au lendemain de l'incendie criminel qui a ravagé l'un des restaurants d'application de l'établissement et qui a touché plusieurs locaux. Les dégâts sont considérables et le préjudice est lourd pour la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Manuel Von Arscott, le directeur de l'ADEC.
Tout d'abord, c'est le désarroi, la déception qui nous touche à notre institution devant ces faits gratuits, puisque nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a intervention et que c'est de la malveillance. Ce n'est pas un accident, c'est de la malveillance. Nous avons donc le restaurant d'application La Case qui a complètement brûlé, ainsi que les cuisines attenantes où nous faisions travailler les classes de CAP. On a une partie des bâtiments qui est complètement inutilisable. Nous avons quelques dizaines de millions de dégâts. Le feu a détruit, mais la suie s'est immiscée dans beaucoup de locaux. Donc il y a une grande partie de nettoyage à faire. C'est le restaurant d'application La Case qui a été endommagé, complètement détruit. Par contre, à une centaine de mètres ou 50 mètres là, nous avons le restaurant d'application Le Quai 23 qui, lui, est en bon état, qui va continuer ses programmations. Et il n'y a pas de souci pour cette partie-là. Même si les bâtiments sont par terre, certains bâtiments, notre morale va repartir. Il faut que le coup de l'émotion passe auprès des équipes également, des élèves, et on redémarrera. Voilà.
Les équipes techniques poursuivaient ce matin les constatations sur place. Une réunion se déroulait avec déjà des décisions pour les élèves scolarisés dans l'établissement. Stéphanie Stens, la directrice du lycée professionnel et hôtelier Saint-Jean 23 de Païta.
On a élaboré une réunion ce matin. La décision, c'est qu'on ferme l'établissement pendant une semaine. On va garder nos étudiants en BTS, puisqu'il y a les examens qui sont importants et qu'ils ont un événement mercredi. Je vais mettre l'accent sur la reprise de mes CAP cuisine et services vendredi matin. Donc la reprise sera uniquement avec ces élèves-là pour faire de la proximité avec mes familles et puis les élèves, parce que c'est important. La semaine suivante, on va reprendre totalement l'établissement. Ça va me laisser le temps avec mes équipes de pouvoir organiser cette semaine avant les vacances particulières et différentes et même après les vacances.
Toutes les familles vont être contactées. 450 élèves sont accueillis, dont des élèves d'inclusion porteurs de handicap. Le maire de Païta, Antoine Romain, était également sur place ce matin.
Je suis évidemment sur les lieux ce matin pour apporter évidemment le soutien de la commune, à la fois surtout ce matin au personnel, mais je pense évidemment aux élèves qui vont être plus que pénalisés, aux familles, aux anciens élèves, pour apporter aussi de l'aide logistique. Malheureusement, cet établissement a déjà connu par le passé des exactions, des incendies, on s'en souvient en 2024. C'est effectivement fortement regrettable. Je tiens aussi à saluer les sapeurs-pompiers de la commune de Païta qui sont intervenus dans un délai extrêmement court, ce qui n'a malheureusement pas permis de sauver le bâtiment, mais de sauver en tous les cas tous les bâtiments qui sont autour. Et puis aussi faire part de notre exaspération et de notre colère. De ce qu'on en sait ce matin, a priori, il est quand même très clairement d'origine volontaire et criminelle. On va travailler maintenant avec l'ADEC pour pouvoir continuer la sécurisation de cet établissement. Enfin, l'objectif, c'est pas non plus de faire de ces écoles, de ces lycées, de ces collèges des prisons, en termes de sécurité, s'entend. Mais malheureusement, on a toujours des individus qui trouvent les failles pour pouvoir commettre leurs méfaits. C'est extrêmement regrettable, mais on est évidemment la commune aux côtés de l'ADEC dans cette nouvelle épreuve ici au lycée Jean.
Les gendarmes ont lancé les investigations après ce sinistre dont l'origine criminelle ne fait aucun doute. J'ajoute que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait part, par voie de communiqué, de sa vive émotion. L'exécutif a tenu à adresser son plein soutien à l'ensemble de la communauté éducative de l'établissement ainsi que les élèves et leurs familles durement touchés par cet événement. Fin de citation. Ouvrons à présent l'agenda de la semaine qui va commencer demain, une semaine qui sera marquée par la réunion à deux reprises des élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Lionel Sabot.
Oui, les conseillers se retrouveront une première fois mardi pour approuver le compte administratif et le compte de gestion 2025 du budget principal de la Nouvelle-Calédonie et de ses budgets annexes. Vendredi, les conseillers procéderont à l'élection des membres du gouvernement, dont le nombre a été fixé, vous le savez, à 11 et dont on connaît la composition nominative des membres. Quatre loyalistes, Christopher Gigès, Laurent Bonnefond, Nina Juillet et Philippe Blaise. Un membre rassemblement, Alcide Ponga. Un membre de l'éveil océanien, Milakulo Tukumuli, qui devrait prendre la présidence de ce 19e gouvernement. Quatre membres UCFLNKS, qui devraient être Gilbert Huyénon, Juanito Ouamitan, Ernest Déméné et Meryl Marlier. Et un membre de l'UNI, en la personne de Billy Forrest. Une liste de noms qui sera donc à confirmer vendredi prochain. Au chapitre institutionnel encore, l'Assemblée de la province Nord se réunira à Koné pour une séance destinée à désigner les membres des commissions et les représentants de la province dans les organismes extérieurs. Vendredi, Païta accueille le Hori Tahiti, une compétition de danse tahitienne qui se poursuivra samedi. Et toujours vendredi, changement de commandement sur la base navale de la Pointe Chalex. Le capitaine de vaisseau Julien Faure remettra son commandement au capitaine de vaisseau Mathieu Tessière. Notez aussi que samedi prochain, l'UNC organise Cap Horizon, c'est le nouveau nom du salon de l'étudiant sur le campus de l'UNC. Et puis, cette information à l'attention des usagers de la RT1 et des administrés de la commune de Bouraille, des travaux de confortement et de mise en sécurité d'un talus vont débuter demain face à l'hôtel Lanera. Les travaux qui devraient durer un mois et demi. Notez que les mardis 28, mercredi 29, jeudi 30 juillet, entre 8h et 15h, la circulation sera fréquemment interrompue par séquence de 10 minutes maximum sur la RT1 pour procéder aux opérations de purge et d'évacuation des blocs en suspens dans le talus dont les travaux commencent donc demain.
Vos rendez-vous d'antenne. Demain, nous ferons le point sur la promotion 2026 de cadres à venir. 61 Calédoniens âgés de 20 à 45 ans partiront pour se former en métropole dès la mi-août. Nous recevrons le directeur de cadres à venir pour parler de ce dispositif. Steven Joub sera notre invité à 7h30. Autre rendez-vous d'antenne, à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est le haut-commissaire Jacques Billan qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Une émission à retrouver en intégralité également en podcast, audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Lana Prost est devenue Miss Nouvelle-Calédonie 2026. Hier soir, à l'issue d'un gala qui avait pour thème Voyage en beauté avec 8 candidates âgées de 17 à 28 ans, la jeune Lana, votre voix de l'horoscope tous les jours sur RRB, est donc devenue notre ambassadrice de beauté. Une surprise et une joie immense, évidemment, pour Lana Prost.
J'avais pas entendu mon nom et prénom, donc. Mais le gala avec Estelle m'a beaucoup rassurée, surtout à ce moment-là, parce que c'est beaucoup d'informations qui tombent d'un coup. Ça veut dire que dans quelques mois, c'est la métropole. Et je vous avoue, quand on passe son bac cette année, ça me met un petit peu la pression. J'ai la chance d'avoir des proches qui me suivent beaucoup et qui m'ont toujours encouragée. Je me suis jamais sentie seule durant cette aventure et je pense que c'est l'essentiel. Je veux montrer les multiples ethnies qui sont dans notre pays, justement, et montrer à quel point elles m'ont construite, car j'ai grandi dans un monde cosmopolite grâce à la Nouvelle-Calédonie et j'espère pouvoir montrer à la France que c'est un bel endroit. Et j'espère aussi leur donner envie de venir en Nouvelle-Calédonie parce qu'on essaie quand même de relancer le tourisme local.
Et notez qu'Estelle Talatini et Avaïki Berthaud ont été désignées première et deuxième dauphine de Lana Prost. C'était une grande joie donc pour la jeune fille de 17 ans et pour sa famille, comme son père Gérald Prost, ancien directeur d'antenne de Radio Rythme Bleu, que vous avez pu entendre dans nos précédentes éditions. Lana défendra ses chances lors du concours Miss France prévu en décembre prochain. Elle tentera de faire aussi bien que Juliette Collet qui avait terminé l'année dernière deuxième du concours national, première dauphine de Miss France. Notre Miss Nouvelle-Calédonie 2026 s'envolera au début du mois de novembre pour la métropole. Un bilan positif pour la 26e édition du Salon des collectionneurs dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Un événement incontournable organisé par le groupement philatélique Le Cagou en partenariat avec l'OPT. C'était l'occasion pour les visiteurs de se plonger dans l'univers de l'école d'antan et d'aller à la découverte des collections présentées par des passionnés. Ils étaient 34 collectionneurs à faire découvrir leurs trésors.
Je suis ravi. En fait, j'ai trouvé ce que je venais chercher, en fait, c'est-à-dire des rencontres de gens intéressés, soit par le basket, soit par la collection de cartes. Donc vraiment ravi. Des belles rencontres, des belles discussions aussi. Des gens de ma génération qui ont vécu les mêmes années que moi, qui ont aimé les mêmes choses que moi. Donc très peu de ventes, mais c'était pas le but. Vraiment, c'était plus de créer du lien et puis peut-être créer des nouvelles passions. Vraiment tout à ça qui est bien. Je viens de discuter avec Sacha qui a 20 ans et qui est fan des Spurs et qui est trop content d'avoir acheté une carte de Wembanyama. Et puis des gens de ma génération, des quarantenaires qui ont vécu les années 90 avec Jordan et on se retrouve, on discute de la même chose et on était à des endroits différents, des fois à l'autre bout de la planète, des Calédoniens qui ont vécu la même passion de collection de cartes en Calédonie. On a suivi les mêmes joueurs, les mêmes équipes et on se retrouve autour de la collection de cartes. C'est beau.
Très positif. En tout cas, moi je suis ravie. J'ai rencontré de nouveaux exposants déjà, découvrir de nouvelles collections, comme celle des cartes de basket. Et j'ai rencontré aussi de nouveaux collectionneurs de tout âge sur mon stand et ça m'a fait plaisir d'échanger et de partager avec eux. J'ai fait pas mal de ventes, que ce soit en petites cartes à l'unité. Également, j'avais des figurines type blind box à vendre. Ça s'est très bien passé de ce côté-là.
J'ai beaucoup de pièces de monnaie qui sont parties. Donc, on avait des numismates qui étaient au rendez-vous et beaucoup d'objets publicitaires aussi qui ont quitté la table d'exposition. Globalement, très satisfait.
Et pour Daniel Mirou, membre du groupement philatélique Le Cagou, le succès est encore une fois au rendez-vous.
Bilan très positif. Deux choses à remarquer. Toutefois, la première chose, l'affluence. On peut dire qu'on a une affluence à peu près similaire à celle de l'année dernière, ce qui est assez réconfortant. Par contre, c'est une affluence surtout constituée de visiteurs, de personnes intéressées par des thèmes particuliers ou qui veulent voir ce qui est exposé, beaucoup plus que d'avoir un intérêt ou de pouvoir acquérir quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que c'est plutôt un salon d'exposition plutôt que de vente, dans la mesure où quand même la crise économique est là et on se rend compte que tout à chacun, donc on subit les contre-coups aujourd'hui.
Et les équipes de Radio Rythme Bleu étaient encore une fois présentes avec un stand pour vous rencontrer sur ce salon des collectionneurs qui a refermé ses portes à 18h dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Une pause publicitaire à présent dans cette édition avant d'évoquer les incendies qui touchent la métropole, des milliers de personnes qui ont dû quitter leur logement. On en parle dans un instant.
Des portes et fenêtres bien fermées évitent les pertes de fraîcheur. Dans une pièce climatisée, fermez les accès pour garder la bonne température. C'est moins de consommation et plus de confort. Toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB. Pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec Mickaël Juniski.
À la une de l'actualité nationale, les feux hors normes qui sévissent en métropole. L'incendie en Gironde sera long à combattre. Ce sont les mots de Laurent Lunez, le ministre de l'Intérieur. Ce feu a en effet déjà parcouru 32 000 hectares et il se rapproche dangereusement de la ville de Bordeaux. Conséquence, 55 000 personnes supplémentaires ont été évacuées hier. Au total, plus de 222 000 personnes ont dû laisser leur maison pour se réfugier dans des lieux sécurisés. Écoutez le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave.
L'incendie, il est toujours aux portes de la métropole. Hein. Vous savez, du côté de Martignas-sur-Jalles, c'est là l'endroit où il est le plus proche. C'est une quinzaine de kilomètres. Hein. Il a ralenti par rapport à la nuit précédente, hein, qui a été une nuit où ça s'était beaucoup accéléré. Donc nous sommes vigilants. C'est pour ça qu'il y a eu des ordres d'évacuation. Ce sont des évacuations préventives qu'a décrété la préfète. Hein. Mais on est paré à toutes les éventualités parce que c'est notre responsabilité, on ne veut pas subir. C'est notre priorité et jusqu'à présent, ça s'est fait dans l'ordre, dans le calme, depuis le début des incendies, grâce à la mobilisation collective, à la coopération de tout le monde et à l'esprit de solidarité qui règne sur notre territoire.
Et face à cette situation exceptionnelle, la population est donc évacuée dans de nombreuses communes. Des structures se sont transformées en lieux d'accueil pour venir en aide aux sinistrés.
On a eu le nuage de fumée et des odeurs, les cendres. Donc ça a commencé à nous inquiéter dans la soirée. C'est pour ça qu'on s'était préparé quand même. On a eu l'alerte à 1h.
On n'arrive pas à dormir, on est toujours dans l'angoisse. Le retour de voir le village détruit, quoi. La forêt juste déréglisse, comme on dit. Les arbres calcinés, des tiges noires. On a eu un premier message des pompiers comme quoi il y avait beaucoup de maisons qui étaient brûlées. Donc là, déjà, c'est l'angoisse qui monte et puis la peur. Et puis, une demi-heure après, on reçoit un autre message comme quoi notre maison est sauvée. Donc là, c'est l'effondrement, mais dans le bon sens, parce que c'était des pleurs de bonheur, quoi. Parce que c'est terrible de perdre sa maison, hein. C'est perdre sa vie, quoi. C'est perdre tous ses souvenirs.
Et le ministre de l'Intérieur a déjà dressé un bilan de ces incendies qui touchent la métropole depuis le début de l'année 2026. Près de 98 000 hectares de forêt ont brûlé, c'est du jamais vu. Le très attendu avion militaire A400M, capable de transporter deux fois plus d'eau que les habituels Canadair, a effectué son premier largage au-dessus des flammes qui ravagent la Gironde. C'est la toute première fois que cet appareil unique entre en action en situation réelle dans le cadre d'un incendie. Cet appareil a déversé 20 000 litres de produits retardants pour ralentir le feu près de la commune de Lacanau. Durant les grandes vacances, la politique sur la scène nationale devrait progressivement se mettre en pause. Les députés ont quitté le Palais Bourbon pour la trêve estivale. Le gouvernement, lui, suivra après un dernier conseil des ministres. L'exécutif se satisfait d'une fin de session fructueuse avec une moisson de textes adoptés définitivement au Parlement, dont plusieurs projets de loi emblématiques. Mais la rentrée politique, à moins d'un an de l'élection présidentielle, s'annonce chargée. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Pour sa dernière année complète à l'Élysée, Emmanuel Macron avait promis des résultats. À mi-parcours, le pouvoir veut montrer que la machine tourne encore. Le texte sur la fin de vie a été adopté, l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans a été votée. Et cette semaine, Matignon revendique 7 lois bouclées sur l'agriculture, la sécurité du quotidien ou encore la prévention cardiovasculaire. Une moisson flatteuse mais à nuancer. 5 de ces textes sont d'origine parlementaire. Sans majorité, l'exécutif construit donc aussi son bilan avec les initiatives des députés et des sénateurs. À la rentrée, l'obstacle sera plus haut. Il faudra faire aboutir la loi sur la protection de l'enfance qui durcit notamment la répression de certains viols commis sur des moins de 15 ans jusqu'à la perpétuité. Puis viendra le budget 2027. Avec des comptes dégradés et une assemblée fragmentée, l'accord paraît déjà difficile. D'autant que la présidentielle occupera toujours plus de terrain. L'année devait être utile. Elle risque désormais d'être aspirée par l'après-Macron.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. En bref, un triste anniversaire en Normandie, non loin de Rouen. Il y a 10 ans, le père Jacques Hamel était assassiné en pleine messe par 2 terroristes islamistes. Aujourd'hui, à Saint-Étienne-du-Rouvray, une célébration républicaine se déroulera en souvenir du prêtre, en présence notamment du Premier ministre Sébastien Lecornu et de l'ancien président de la République François Hollande. L'actualité dans le monde. À Berlin, un véhicule a percuté la foule en marge de la Gay Pride. Cet attentat a fait 1 mort et 16 blessés, dont 11 graves. Un suspect a été identifié, mais n'a pas encore été interpellé. Il serait lié au milieu islamiste. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la police allemande. Le maire de la capitale de l'Allemagne a dénoncé, je cite, « une attaque contre notre société libre ». À l'international, le Moyen-Orient, où la situation continue de s'envenimer. Le président américain Donald Trump envisage des bombardements encore plus importants sur l'Iran. Selon certains médias américains, le locataire de la Maison-Blanche serait de plus en plus frustré par l'enlisement de la situation, ce qui pourrait engendrer une opération militaire à grande échelle en Iran. Les plages du débarquement en Normandie vont-elles être classées enfin au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Ce ne serait plus qu'une question d'heure. En cas de réponse positive, les plages du D-Day deviendraient le 4e site normand à obtenir ce classement. Une reconnaissance attendue depuis plus de 10 ans par la région et par les associations mémorielles. Le reportage de Romy Azoulay pour Europe 1.
À Saint-Aubin-sur-Mer, commune qui borde la plage de Juneau, le maire, Laurent Hautelard, est optimiste. 82 ans après le débarquement de milliers de soldats canadiens, leur rendre hommage est une priorité.
Ça me fait bien plaisir parce que c'est quand même une reconnaissance attendue depuis longtemps. Quand on a des milliers de gens qui ont sacrifié leur vie pour venir nous libérer, on peut pas oublier ça.
Au-delà du symbole historique, obtenir ce label UNESCO permet aussi de décrocher des financements publics pour aider les communes à préserver le littoral. Patrick Lavarde, premier adjoint à Vers-sur-Mer, où se trouve la plage de Gold Beach.
La préservation des vestiges, évidemment, coûte très cher. Le fait
donc d'avoir à préserver certains de ces vestiges est une motivation supplémentaire pour protéger le trait de côte dans le cadre plus général de la lutte contre l'érosion contraire et la submersion marine.
Un enjeu aussi touristique, les plages du Jour J ont attiré près de 10 millions de visiteurs l'an dernier, un chiffre que les élus espèrent voir augmenter grâce à cette potentielle inscription à l'UNESCO.
Romy Azoulay pour Europe 1. Il est 18h passé de 5 minutes, on va tourner une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actu sport.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus, envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 7 août à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La fin de votre journal avec Mickaël Juneski.
À la une du sport, du cyclisme, avec le grand final pour le Tour de France.
Suivez le Tour de France avec Mazda. Besoin d'une nouvelle voiture ? Avec Mazda, trouvez la voiture adaptée à vos besoins. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda. Passez nous voir au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Et c'est l'épilogue de cette édition 2026 de la Grande Boucle. Le Slovène Tadej Pogačar roule évidemment vers un nouveau sacre. Place au dernier frisson pour ce tour qui s'achèvera à Paris, avec notamment trois passages extrêmement attendus à la butte Montmartre. On se souvient évidemment de ces images de Liesse dans la désormais très célèbre rue Le Pic. Les fans du tour ont déjà pris leur place. Charles Bouchin pour Europe 1.
Au pied de la rue Le Pic qui monte jusqu'à la butte Montmartre, Jules, chaise pliante sur le dos, est en repérage.
Bah, la course va en principe se jouer là, mais notre but c'est d'être bien placé.
Et pour trouver le coin idéal, il peut compter sur son père.
On a regardé un petit peu par rapport à la télé, on a déjà une idée un peu de où on va se placer en fait. À peu près au milieu de la rue, par un bon point de vue.
Tout est parfaitement réglé, sauf peut-être l'horaire d'arrivée.
Bah, papa voulait venir vers 11h, mais on va venir plus tôt parce qu'on sait qu'il y aura du monde. À 9h maximum, je serai à la barrière.
Ouais, bah, vers 10h à peu près. Vers 10h. D'autant que des milliers de fans du monde entier sont attendus, Finsel et Sud-Africain.
On va crier, hurler avec les millions de supporters le long du parcours. Ça va être incroyable d'être dans les rues de Montmartre pour vivre l'effervescence du Tour de France à Paris.
Et pour ressentir encore plus cette ambiance, certains cyclistes amateurs se frottent au pavé de Montmartre. C'était horrible, franchement. Paul vient d'en terminer.
À la première partie, ça va, c'est tranquille, grand plateau. Tu crois que t'es grand plateau jusque dans le virage. T'as les pavés qui commencent à être un petit peu dans tous les sens. Et là, tu pètes, quoi.
Place au repos pour cet habitant de la rue Le Pic qui n'aura qu'à se lever du canapé pour apercevoir les coureurs par sa fenêtre.
Charles Bouchin pour Europe 1, départ de la dernière journée de ce Tour de France à partir de 2h50, heure de Nouméa. On passe au sport mécanique, la Formule 1 avec la 11e manche du championnat du monde.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les pilotes et écuries sont ce week-end le dernier avec un mois de vacances en Hongrie. Donc, ça se passe sur le tracé du Hungaroring, Lionel Sabot.
Et une question, Mickaël, savez-vous pourquoi on appelle le Hungaroring et savez-vous comment on le surnomme ?
Eh bien, je dirais le tourniquet.
Alors, vous avez raison, certains pilotes l'appellent aussi le Monaco sans les murs en raison de ses enchaînements incessants de virages, en particulier dans le deuxième secteur. Bref, c'est un circuit qui est lent, bosselé, étroit en raison de l'étroitesse de la piste et de l'absence de longues lignes droites. Les dépassements y sont évidemment bien difficiles. Et la séance de qualification, comme à Monaco, est primordiale pour espérer obtenir un bon résultat. La séance de qualif s'est déroulée hier soir pour nous et a vu Lando Norris, le champion du monde en titre, quitter la peu glorieuse catégorie des etc. Comprenez les pilotes qui viennent loin derrière tout le monde. Au volant de sa McLaren, le pilote britannique a signé la pole position. Ce soir, au moment du départ, il aura à ses côtés la Ferrari de Charles Leclerc. En deuxième ligne, on trouvera La McLaren, l'autre McLaren, celle de d'Oscar Piastri, et la Red Bull de Max Verstappen. Lewis Hamilton, qui avait signé le deuxième temps, a écopé d'une pénalité. Il s'élancera finalement depuis la troisième ligne. Même punition pour Kimi Antonelli, qui avait signé le quatrième temps et qui s'élancera finalement depuis la quatrième ligne à la septième place. Côté français, Isaac Hadjar est le mieux classé une nouvelle fois sur sa Red Bull. Il s'élancera aux côtés de Kimi Antonelli. Pierre Gasly sur Alpine s'élancera depuis la sixième ligne. Esteban Ocon depuis la huitième au volant de Saas. Le départ du Grand Prix sera donné à minuit. Et à l'issue de cette course, ce sera vacances pour tout le monde pendant un mois.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport côté calédonien à présent et un nouveau titre de champion de France de lancer de javelot pour Félix Vaes-Sosaïa. Il a réalisé la meilleure performance du concours à Albi en métropole la nuit dernière. Après 2025 et 2022, le licencié du club Jules Garnier a réalisé une magnifique performance dans ses France Élites en tête du classement dès son premier essai. Le recordman de Nouvelle-Calédonie a effectué plusieurs lancers aux alentours des 80 mètres, dont le meilleur à 81 mètres 27. À la cinquième tentative. Il devance notamment le recordman de France, Théora Tupaya. Après son record à 82 mètres 11 le mois passé, donc le désormais triple champion de France élite confirme qu'il a clairement franchi un cap et ambitionne à présent de performer au niveau international. Il faudra désormais attendre mardi prochain pour savoir si Félix Vaes-Sosaïa est de nouveau sélectionné au championnat d'Europe de Birmingham. Ça sera du 10 au 16 août prochain, ainsi qu'aux Jeux méditerranéens à la fin du mois d'août. À Nouméa, plus de 130 judokas étaient réunis à l'occasion du tournoi du club calédonien tout le week-end à la salle Marius Jocteur du quartier latin. Une compétition qui devenait une belle fête pour la pratique, notamment pour les plus jeunes.
J'aime bien le judo, donc j'aime bien continuer à faire toutes les compétitions.
Bah, parce que j'aime bien faire le judo,
rencontrer d'autres gens.
Moi, j'aime bien combattre les autres, à essayer de les faire chuter.
Ce que j'aime bien au judo, c'est que tu te déplaces un peu partout dans la Nouvelle-Calédonie et tu te fais des nouveaux amis un peu partout. C'est très bien. C'est un sport de combat très amusant et très drôle pour se faire des amis.
C'est technique.
Faire des prises, le sinsfest. C'est ma première compète. Bah, ça fait du plaisir, en même temps du stress.
Moi, je suis Nathalie Do, la présidente du judo club calédonien. On est très contents parce que bon, normalement, on fait un grand tournoi annuel à la salle des arts martiaux. Il y a eu des petits soucis de contraintes administratives. Donc, on s'est retrouvé à choisir un autre format. Du coup, je m'aperçois que c'est un format qui est sympa, c'est familial, convivial. Donc, l'année prochaine, à renouveler. Voilà.
La compétition qui se déroulait donc durant deux jours. À Nouméa, encore des résultats ce dimanche. En cyclisme, la fin du Grand Prix des disparus et Ryan Lachnik, il a emporté au classement général à Bouraille après s'être imposé sur le contre-la-montre hier et en terminant deuxième de la course longue aujourd'hui avec la montée du col de Bogen. Chatcharé de l'ECV l'a emporté sur la troisième et dernière étape ce dimanche, devant donc Ryan Lachny de Sport Pro, deuxième, et Thomas Rizzolatti, troisième pour l'ECV. Mélanie Allier de l'ECV s'est classée meilleure féminine devant Jessica Belenguez du CS Bouraille et Patricia Temraud de l'ECV. Ryan Lachny gagne donc le classement général, juste devant Florian Barquette du VCC Mandor et Chad Charret de l'ECV. Chez les féminines, Mélanie Allier s'est adjugée la victoire finale devant Patricia Temraud et Jessica Belenguez. 18h, passé de 13 minutes, on termine ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et murs depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre, bonsoir.
Bonsoir, cette nuit dans le sud, le ciel restera largement étoilé. Ailleurs, les derniers passages nuageux, encore accompagnés de quelques rares ondées en début de soirée, s'évacueront progressivement vers le nord. Ils laisseront ensuite la place à un ciel peu nuageux, parfois traversé par quelques passages plus chargés. L'alizé de sud-est soufflera généralement entre 10 et 15 nœuds, et il dépassera localement les 15 nœuds sur la pointe nord et aux îles Loyauté. Les températures quant à elles resteront fraîches avec 16 à 19 degrés près des côtes et seulement 11 à 15 degrés dans l'intérieur des terres et sur les îles. Demain matin, à Bélep, quelques nuages pourront encore s'attarder et donner une averse isolée. Partout ailleurs, le soleil dominera largement malgré quelques passages nuageux sur l'extrême sud et du côté de Marie. L'alizé de sud-est se maintiendra entre 10 et 15 nœuds avec des pointes comprises entre 15 et 20 nœuds sur la pointe nord.
Merci beaucoup Pierre pour la météo, la technique. C'est la fin de ce journal.